Loué sois-tu, Seigneur, pour ton grand nom. Merci parce que, Seigneur, toi qui étais riche, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Et nous voyons encore dans cette convention, dans ces moments que nous passons, tout l'enrichissement eh bien, que tu nous apportes dans notre vie personnelle et dans notre communion avec toi et dans notre communion les uns avec les autres. Oh, merci, Seigneur, de permettre que eh bien, ton nom soit encore glorifié eh bien, dans cet instant, dans ce message. Seigneur, permets que ton Esprit Saint soit agissant et que Jésus-Christ eh bien, soit vu, connu et reconnu dans nos cœurs. Amen.
Amen.
Amen. Jésus-Christ abandonné. Il y a dans la deuxième épître de Timothée des petites exhortations toutes simples que l'apôtre Paul adresse à son disciple, je dirais, qui s'appelle Timothée, et il les lui adresse parce qu'il traverse un temps pénible. C'était une période d'apostasie, et il lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et il lui dit « N'aie point honte de Jésus-Christ ». Et il lui dit « Fortifie-toi en Jésus-Christ ». Et il lui dit « Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Et il lui dit « Vis pieusement en Jésus-Christ ». C'est-à-dire que dans les temps que nous vivons, où les points de repère de la foi disparaissent, il est bon de se souvenir eh bien, que le cœur de notre foi, eh bien, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ abandonné, rien qu'avec cette expression, nous avons toute la définition de l'apostasie. S'éloigner la personne de Christ, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est s'éloigner littéralement de la position droite. Et en Jésus-Christ, nous avons le chemin. En Jésus-Christ, nous avons la vérité. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Et s'éloigner de Christ, c'est vraiment l'apostasie. Il y a cependant plusieurs manières de s'éloigner de Jésus-Christ. Il y a ceux qui crèvent les yeux. Oh, ben vous avez vu où est-ce qu'il en est dans sa vie? Comment sa vie est? Oh là là, il a vraiment complètement abandonné la personne de Jésus-Christ. Mais il y a aussi des façon plus discrète, plus intérieure, qui consiste tout autant à abandonner, eh bien, la personne de Jésus-Christ. Un pasteur s'est réveillé dans sa vie spirituelle quand il a constaté dans sa vie que Jésus-Christ n'était plus qu'une formule. Au nom de Jésus, amen. Voilà. Abracadabra. Sésame, ouvre-toi. Une formule. Et parfois, eh bien, Jésus-Christ n'est plus qu'un nom, mais il n'est plus une personne. Il n'est plus l'être avec lequel on doit être en communion. Et c'est là où eh bien, nous devons prendre la mesure de ce que nous avons pu eh bien, abandonner le Seigneur Jésus. Ouvrez à votre Bible avec moi dans l'Ancien Testament. Nous y trouverons bien la source, je dirais, de notre inspiration dans le prophète Jérémie au chapitre 2 et au verset 13. Et il est écrit dans ce livre, c'est le prophète qui parle dans tout ce chapitre, que son peuple, le peuple d'Israël, eh bien, a abandonné son Dieu. Et au verset 13, il est écrit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Dans ces mots, eh bien, nous avons la question d'un double péché. Avons-nous ce matin, je vais même dire, avez-vous, sachez que j'ai médité ce message pour d'abord me l'approprier, et je veux dire, si je veux dire vous ce matin, c'est simplement, non pas pour m'extraire de ce message, mais pour que nous nous interpellions chacun personnellement. As-tu, avez-vous commis le double péché? Le double péché, eh bien, le Seigneur le dit ici, c'est d'abandonner la personne de l'Éternel et puis se faire ces citernes crevassées. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. dit le Seigneur. Les sources d'eau vive. Pour les Juifs, à cette époque, tout de suite, cela ramenait, eh bien, à la pèlerination du peuple d'Israël dans le désert où Moïse, eh bien, avait pris son bâton et il avait frappé le rocher. Et là, eh bien, des eaux vives avaient coulé pour abreuver, eh bien, le peuple de Dieu. Et là, le peuple de Dieu avait tout pour pouvoir se rassasier, pour pouvoir vivre dans un désert. Il avait les eaux vives. Vous savez qu'il y a un peu plus tard, dans l'évangile de Jean, à l'occasion d'une grande fête religieuse, eh bien, le Seigneur Jésus s'est levé à la fin de la fête et il a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Vous savez qu'il a dû choquer tout le monde à ce moment-là. Il y avait dans ces instants, il y avait le souverain sacrificateur qui était en train d'officier. Il y avait tout le peuple qui était dirigé vers tout le cérémonial, toute la tradition, toute la vie spirituelle du peuple d'Israël. Et voilà le Seigneur qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et tout d'un coup, les gens sont retournés. C'est qui lui? C'est le Messie. C'est le Messie. Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte à quel point toute la personne de Jésus-Christ emplit, eh bien, même l'Ancien Testament, et je pense à cela quand j'ai pu faire une étude avec mon église sur le tabernacle, où la seule chose dont nous avons parlé en faisant cela, c'est de la personne de Jésus-Christ. Chaque fois qu'il était question d'une planche dans le tabernacle, eh bien, ça ramenait toujours à Jésus-Christ. Quand il est question d'un peu d'or, ça ramène à la personne de Jésus-Christ. Et quand il est question, eh bien, d'un voile, ça ramène à la personne de Jésus-Christ. Quand il est question de pieux, de tentes, de mâts, quand il est question de cordage, tout ramène à la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était complètement oublié, eh bien, par le peuple d'Israël. Oui, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le Seigneur veut que nous comprenions que toute plénitude spirituelle, tout rassasiement, eh bien, se trouve en Jésus-Christ. J'ai mon voisin, dernièrement, je discutais avec lui, je comprenais pas bien ce qu'il disait, il parle en ch'ti, c'est pas facile de le suivre, et il me disait ça avec son accent, j'ai réussi à traduire, et il m'a dit, quand on a tout, on a besoin de rien. Je le comprenais pas, il a dû le répéter plusieurs fois, mais voilà, quand on a tout, on a besoin de rien. Bon, il parlait pas du Seigneur. Mais quand on a tout, en Christ, eh bien, on n'a besoin de rien. Et voyez-vous, ici, eh bien, Jésus-Christ, dans notre texte, n'est plus le centre. Il n'est plus le centre. Le peuple d'Israël a abandonné son Dieu et ils se sont creusés des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et des citernes, vous savez, ce sont des réservoirs. Des réservoirs dans lesquels on met de l'eau, des eaux de pluie, ce sont des réservoirs qui sont faits par la main de l'homme. Et là, l'homme essaye de rassembler eh bien, des eaux pour boire. Des eaux qui finalement s'avèrent particulièrement sales. En écrivant cela sur mon papier, ma femme m'a dérangé, j'étais en train de préparer ce message, je me dis, mais va voir dans le jardin, il y a Nicolas, il est en train de patauger dans l'eau. Et je suis allé voir, il y avait effectivement un petit réservoir, c'était tout vert, il y avait des moustiques qui remontaient à la surface, mais bref, il y a tout ça. Je dis, mais Seigneur, c'est ça, hein, voilà les eaux sales hein, du réservoir. Et finalement, eh bien, c'est à ces eaux que parfois nous allons boire dans notre vie. Et le Seigneur, eh bien, veut nous faire comprendre quelque chose ici. C'est que le double péché de notre vie, c'est d'abandonner Christ et de faire comme si, eh bien, cela n'était pas le cas. C'est d'avoir finalement trouvé un substitut à la personne de Jésus-Christ. Ils ont trouvé d'autres eaux, et donc il y a quand même de l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont échangé quelque chose d'authentique avec quelque chose de factice. Voilà comment eh bien, nous pouvons abandonner le Seigneur eh bien, sans même s'en rendre compte. Qu'est-ce qui est authentique? Ce qui est authentique dans le christianisme, c'est d'avoir le désir ardent eh bien, de satisfaire la personne du Seigneur. Ça, c'est authentique. Ce qui est factice, c'est d'utiliser le Seigneur pour satisfaire notre volonté. Et aujourd'hui, voyez-vous, ce christianisme moderne dont on entend parler, c'est toujours ce christianisme qui est centré sur la satisfaction de l'homme. Mon bonheur, ma joie, comment Jésus peut-il me rendre heureux? C'est cela, ce christianisme dont nous entendons de plus en plus parler aujourd'hui. Le christianisme bon génie, comme Aladdin qui ouvre sa bouteille et on demande et on referme. Voilà ce christianisme qui a abandonné son Dieu. On peut le faire sans révolution particulière. On peut le faire sans même s'en rendre compte soi-même. Abandonner le Seigneur Jésus. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'abandonner le Seigneur Jésus? C'est abandonner l'amour pour le Seigneur Jésus. Voilà. Regardez dans notre texte. Dans notre texte, en Jérémie, écrit, je me souviens, chapitre 2, verset 2, « Va, écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Israël était consacré à l'Éternel. Oh, je me souviens. Vous savez, Dieu se souvient parfois de ce que nous étions autrefois, quand nous étions tout feu, tout bouillant pour le Seigneur Jésus. Il emplissait notre cœur, notre vie. Dans le livre de l'Apocalypse, ces paroles rebondissent quand le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse d'avoir perdu son premier amour. C'est grave, parce que Dieu est amour et tout ce qu'il veut cultiver en nous doit être le fruit de cet amour que nous devons avoir pour lui. Dernièrement, j'ai vu un film assez amusant, que je vous conseille d'ailleurs, sous le regard de ce message, tenez. C'est l'histoire de... ça s'appelle le violonneux sur le toit. Et le violon sur le toit, mais le violoniste plus précisément, ou quelque chose comme ça. Et c'est toute l'histoire des pèlerinations des juifs des pays de l'Est. Et c'est assez intéressant parce qu'ils se réfugient dans toutes leurs traditions. Et il y a un moment où un homme parle à sa femme et lui dit qu'il a accordé la main de sa fille à un homme. Et la femme s'étonne, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais c'était pas comme ça qu'on avait arrangé la chose. Et il dit, mais comment voulais-tu que je fasse? Elle l'aime. Elle l'aime. Elle l'aime. Ah! Elle l'aime. Qu'est-ce que ça fait là? Et dans tout ce passage, il est question de ces traditions qui s'effilochent parce que finalement, ils en ont oublié l'essentiel. Justement, c'est l'amour. Il n'y avait que des mariages arrangés. Il n'était pas question de s'aimer dans un mariage arrangé. Et là, tu sais, c'est un nouveau style. C'est l'amour. Mais c'est un vieux style pour le Seigneur. Tout procède de l'amour que nous devons avoir avec Dieu. Et parfois, on se dit, mais Dieu, qu'est-ce que ça fait là? Où est-ce que j'en suis avec l'amour du Seigneur? Voilà la question qu'on pourrait se poser ce matin. J'aimerais regarder dans notre texte en Jérémie, le verset 8, et voir en quoi le Seigneur montre que son peuple l'a abandonné. Au verset 8, il est écrit « Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Voilà. Voilà en quoi, mon peuple m'a abandonné. Et j'aimerais que nous voyions, dans ces lignes, tout ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui, chrétiens, arrivés à la fin des temps, et où l'amour de Jésus-Christ, a disparu. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Mais vous savez que « Où est l'Éternel ?» C'était la question que le peuple d'Israël se posait toujours quand il s'agissait de consulter Dieu pour savoir quelle était sa volonté. « Où est l'Éternel ?» Le Dieu d'Élie. « Où est l'Éternel ?» Quelle est sa volonté ? Vous savez, quand il est question de la volonté de Dieu dans nos vies, il y a deux aspects. Il y a la volonté directive, et puis la volonté permissive. La volonté directive de Dieu, c'est la volonté qui est clairement énoncée dans les Écritures, qui nous montre directement ce que Dieu veut. Par exemple, eh bien, vous regardez dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ça, c'est sa volonté directive. Il le veut, c'est dit, c'est clair. Vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'il veut ? Bon, voilà, c'est clair. Mais il veut aussi d'autres choses. Et notamment, quand on regarde eh bien dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, il est écrit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu, dit l'apôtre Paul, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable. » Est parfaite. Ce que nous apprenons ici dans la volonté directive de Dieu, c'est que chaque chrétien offre sa vie en sacrifice vivant. Ça, c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Mais justement, ce sacrifice vivant que Dieu attend de chacun d'entre nous, comme on dit aujourd'hui, il passe à l'as. Et on cherche à lui substituer autre chose. Vous savez, ce sacrifice vivant, c'est la réponse eh bien, de l'Église eh bien, à son époux. Et c'est là ce que le Seigneur eh bien, attend de nous. La volonté permissive, c'est quand eh bien, Dieu permet que nous fassions notre volonté et qu'au travers de notre volonté, il en tire encore gloire pour son saint nom. D'ailleurs, il y a dans les Écritures un exemple. L'histoire d'un homme qui s'appelait Balaam, prophète de l'Éternel, est-il écrit. Et un jour, Balaam, eh bien, s'est trouvé au pied du mur. Il était question, eh bien, que Balak vienne le voir, ou tout au moins, il a envoyé ses émissaires avec beaucoup de présents, et il lui a promis beaucoup de présents, beaucoup d'honneur, et qu'il vienne pour maudire, eh bien, le peuple d'Israël. Alors, Balaam ne savait pas trop quoi faire sur le coup, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a consulté Dieu. « Quelle est ta volonté ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Ben non, tu n'iras pas. Ce n'est pas du tout ma volonté. » Parfois, vous savez, Dieu veut qu'on aille, et puis parfois, Dieu qui veut qu'on n'aille pas. Hein ? Là, c'était clair. Alors, les émissaires sont retournés voir Balak, et ils ont dit, « Mais il ne veut pas venir. » Alors, il a envoyé des émissaires encore plus grands. Il a envoyé plus de présents. Il a promis encore plus d'honneur et... Volonté de Dieu... Présent, volonté de Dieu, honneur, volonté de Dieu, la jouissance des gens, travail. Je vais reposer la question. Attendez encore. Hein. J'ai peut-être pas bien entendu la première fois. Il y retourne et là, finalement, le Seigneur le livre, finalement, à la volonté permissive, à sa volonté permissive. Mais après, il se dresse, rappelez-vous. Et même son ânesse, plus spirituelle que lui, eh bien, va l'arrêter pour lui faire comprendre qu'il s'égare dans sa propre volonté. Oh, Balaam a dit de très belles choses. Oh, je vois un astre qui sort de Jacob et tout cela. Prophétisé déjà sur le Seigneur Jésus. Il a dit de très belles choses. Mais en fait, ce n'était pas du tout ce que Dieu avait prévu pour lui au départ. Et puis même par la suite, ben, il a mal fini. Il a fini avec un coup d'épée. Il a été, voilà, il a mal fini dans une bataille contre Madian. Et oh là, il a tout perdu. Et voyez-vous, on commence à glisser sur le terrain de la communion avec le Seigneur, quand on renonce à offrir nos vies en sacrifice vivant à l'Éternel, à Jésus-Christ. Et voyez-vous, ce sacrifice vivant, on en parle, mais il y a des moments où Dieu nous dit « c'est là, c'est maintenant ». Vous savez qu'il y a un moment où, dans le jardin de Génézareth, eh bien, le Seigneur a été arrêté, la veille, quelques instants après, avant, ils étaient prêts à tous offrir leur vie à Jésus-Christ. Et là, il est écrit, les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà. Parce que là, c'était leur vie qui était en danger. C'était leur avenir qui était compromis. C'était leur vision même de Dieu qui était transformée. Ils ne savaient plus du tout où ils en étaient. Tout s'effondrait. Et ils ont pris la fuite. Parfois, c'est comme cela que nous répondons. Eh bien, au Seigneur, et nous prenons tout simplement la fuite. Le Seigneur nous invite au renoncement, au sacrifice de nous-mêmes. C'est là, eh bien, ce que l'on peut appeler le scandale de la croix. C'est l'abandon eh bien, de notre vie pour Jésus-Christ. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8 et au verset 34, il est écrit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et c'est là, tout simplement, la volonté directive du Seigneur pour chacun d'entre nous. Abandonner Christ, c'est abandonner cette invitation au sacrifice de notre propre vie pour Jésus-Christ. Voilà. Et déjà, on est sur le terrain, eh bien, qui glisse. Oh, je me souviens, il y a quelques années de cela, c'était une des premières rencontres de l'Alliance. Ça se faisait à l'époque dans le Limousin, un petit peu plus à la campagne, un petit peu moins nombreux. Et il y avait là une dame qui venait de notre église de Lille et elle a profité pendant quelques jours de la communion fraternelle et elle était dans la joie et elle goûtait à des bons moments et c'était, elle était toute contente, elle me le disait. Et puis à un moment, on m'a dit, mais tiens, elle est dans les chambres là et elle pleure beaucoup. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Alors je suis allé la voir et j'ai discuté quelques instants avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle me disait, oh, c'est merveilleux tout ce qu'on vit ici. Oh là là, c'est formidable. Oh là là. Bah oui, bah alors, c'est chouette. Réjouissons-nous. C'est vraiment, je passe des moments. C'est vraiment le ciel sur la terre. Voilà. Bah oui, bah c'est chouette. Profitons-en. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tout cela. Oh oui. C'est trop formidable et tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que elle voyait à quel point l'invitation du Seigneur était là. Elle jouissait déjà des fruits du pays, mais elle voulait pas entrer dans le pays. Et c'est pour ça qu'elle pleurait. Oh, je me souviens d'un autre jeune homme. Il m'a dit, bon, faut que je te parle, hein, viens, on va se mettre dans le bureau, là. Alors, bon, écoute, faut que je te dise, hein, il y a deux choses que je sais sur ma propre vie. La première, je sais que Dieu m'appelle. Et il commence à pleurer. Je dis, mais c'est merveilleux, pourquoi tu pleures? Oui. Et la deuxième chose, c'est que je sais que Dieu m'appelle en France. Il pleurait encore. Mais pourquoi tu pleures? Réjouis-toi de tout cela, c'est merveilleux. Tu sais ce que Dieu veut pour toi. Et il pleurait. Oui, mais j'ai peur. J'ai peur. Et voyez-vous, il a été vaincu par la peur. Et il a renoncé au sacrifice de sa propre vie. Oh, aujourd'hui, oui, il fait des choses merveilleuses. Il a toujours une vie spirituelle. Mais il est passé à côté du sacrifice que Dieu attendait de sa vie. Et voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes, de frères qui vivent une vie spirituelle, mais pas la vie spirituelle que Dieu attendait d'eux parce qu'ils n'ont pas offert leur vie en sacrifice vivant pour le Seigneur Jésus. Nous vivons, beaucoup d'entre nous vivons la volonté permissive de Dieu, celle dans laquelle ne se trouve pas la croix de Jésus-Christ, la croix du calvaire. Où en sommes-nous ce matin? Où en sommes-nous par rapport à cela? Un jour, Isaac cheminait avec son père, ils allaient à Morija et lui disaient hey, « Papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est le sacrifice ?» Eh oui, on peut avoir le feu, le bois, pour adorer Dieu, mais pour adorer Dieu, il faut le sacrifice, le sacrifice. Et voilà où nous en sommes parfois. Abandonner Dieu, c'est abandonner le sacrifice de nos vies en réponse, eh bien, à ce que le Seigneur a fait pour nous. Sommes-nous passés à côté de la volonté directive du Seigneur? Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que nous avons une arme absolue, c'est la repentance. On en a parlé longtemps hier et gardez ça en mémoire, parce que Dieu relève. Dieu relève quand on prend conscience, eh bien, de l'état de nos vies. Voyons voir l'autre affirmation que nous avons dans notre texte. Il est écrit, les dépositaires de la loi ne m'ont point connu. Alors le mot est très intéressant ici, parce que le mot dépositaire, c'est un mot militaire. En fait, ce sont les manieurs. C'était le terme qu'on employait pour ceux qui maniaient l'épée, le sabre, hein, c'est comme s'il disait ici, ceux qui manient l'épée ne savent pas se servir d'une épée. Les manieurs de la loi, ceux qui l'ont, qui la tournent, qui l'ouvrent, elle est annotée partout peut-être, ils la connaissent. Oh, nous faisons ce qu'on appelle de l'escrime biblique. Il y a des champions du monde parmi nous. Et voilà, et il s'adresse ici, non pas, il dit pas, ceux qui ne connaissent pas la loi ne m'ont pas connu. Il dit, ceux qui sont censés connaître la loi, eh bien, ne m'ont pas connu. Voilà quelque chose d'un peu différent. Et ici, eh bien, le Seigneur nous interpelle sur ce que nous avons fait de la parole de Dieu dans nos propres existences. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 9, le Seigneur Jésus s'adresse à Philippe, l'un de ses disciples, et il lui dit, Philippe, cela fait si longtemps que je suis au milieu de vous, et tu ne m'as pas connu. Rendez-vous compte, on peut entendre l'enseignement, on peut connaître des versets, mais il manque quelque chose, connaître le Seigneur personnellement. Dans un autre passage des Écritures, il est écrit dans le psaume notamment 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi, bref, de ne point m'éloigner de toi. » Et vous savez, le secret ici, c'est de serrer la parole de Dieu dans le cœur, pas dans l'intellect. Et souvent, nous avons une connaissance, une grande érudition dans la parole de Dieu, mais entre justement cette érudition et le cœur, il manque un pont. Et le pont, eh bien, vous savez ce que c'est ? C'est la réflexion. Vous savez, la réflexion, quand on réfléchit sur les choses que l'on connaît, eh bien, ça débouche toujours sur une attitude active. Ça touche toujours notre volonté. Regardez pourquoi les gens ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Ils ne veulent même pas aborder des discussions. Mais enfin, on pourrait discuter, tout simplement. Parce que s'ils commencent à réfléchir, ça va changer la vie. Donc aujourd'hui, on a inventé un christianisme qui cite parfois des paroles de Dieu, mais il ne faut surtout pas méditer ce que l'on a appris, entendu. Il faut juste le recevoir comme cela. Parce que sinon, eh bien, cela débouche sur une attitude active. Toujours notre Philippe. Eh bien, un jour, le Seigneur l'a pris à part et il y avait là une grande foule. Et il lui a dit, ben voilà, Philippe, avec tous ces gens qui sont là, comment allons-nous faire pour les nourrir ? Alors Philippe, avec 200 deniers, et pas à dire, on peut pas. On peut pas, c'est pas possible. Et nous sommes toujours un peu comme cela, un peu à l'image de Philippe. Dieu nous éprouve dans des moments où notre raison nous dépasse, où nos calculs s'avèrent inefficaces. Et vous savez qu'on est calculateur, hein. On programme tout dans notre vie. Quand le Seigneur veut nous inviter à exercer la foi en son nom, on se dit, là, c'est pas possible. Tout qu'on fait, non, c'est pas programmé comme cela. Non, ça rentre pas dans le moule. Et qu'est-ce qui passe encore, hélas ? Eh bien, c'est une connaissance par la foi de Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur a dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi ? C'est-à-dire une attitude active, une connaissance concrète, vécue, intérieure, eh bien, avec le Seigneur Jésus. C'est cette foi qui manque, qui a été remplacée par nos faux raisonnements. J'ai lu l'autre jour une très belle méditation de Oswald de Chambers. Vous savez, il a son petit livre de méditation quotidienne. La méditation, c'est celle du 29 avril, voilà. Il n'y a pas besoin de donner l'année parce que vous pouvez recommencer tous les ans. Celle du 29 avril était intitulée comme ceci, « Le charme de l'incertitude ». Et vous savez, le Seigneur nous invite dans des pâturages charmants, qui sont des pâturages d'incertitude. Et c'est dans l'incertitude, eh bien, de la vie de tous les jours, des événements que le Seigneur place devant nous, eh bien, qu'il nous invite à entrer. Vous savez, quand on exerce la foi, ça veut dire qu'on a une certitude dans notre cœur, dans notre vie, c'est Dieu, c'est Christ, c'est sa parole. Je suis sûr qu'il est avec moi, et du coup, parce que j'en suis sûr, je suis prêt à me lever pour entrer dans des sentiers d'incertitude. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons avoir des sentiers très sûrs, et finalement, nous perdons nos certitudes spirituelles, nos connaissances de la parole de Dieu. On a inversé la démarche. Mais regardez, Abraham, il est écrit qu'il s'est levé, puis il est parti sans savoir où il allait. Voilà un homme qui avait une certitude, le Seigneur m'a parlé, sa parole est la vérité, il est un Dieu qui ne ment pas, et du reste, il était l'ami du Seigneur, et il marchait dans une vie pleine d'incertitudes. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va aller, mais je suis sûr que je marche avec le Seigneur. Et vous savez que c'est quand on marche comme cela qu'on connaît le Seigneur. Alors aujourd'hui, là encore, on a renoncé au sentier d'incertitude de nos vies, et on essaye de trouver une connaissance extatique, sentimentale, quelque chose qui remplace le sacrifice, quelque chose qui remplace la foi, mais c'est quelque chose de factice, c'est une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. J'ai lu cette petite méditation intéressante, petite anecdote. Il était question d'une dame qui avait une maison sur les bords de la mer en Irlande, au début du XXe siècle. Elle était assez fortunée, mais elle était surtout, pas disposée à dépenser son argent. Et à la surprise générale, il s'est trouvé que cette dame a décidé de faire de grosses dépenses pour installer l'électricité dans sa maison. Alors, tout le monde était vraiment très surpris. Après l'installation, quelques semaines plus tard, le contrôleur de EDF, peut-être pas, est passé par là et lui a posé la question « Mais madame, ça va? Tout fonctionne bien ?»« Oui, oh, c'est formidable, ça marche très très bien. »« D'accord, oui. Est-ce que je peux vous poser une autre question ?»« Oui, allez-y. Bah, écoutez, est-ce que vous utilisez vraiment l'électricité ?»« Eh oui. » Parce que votre compteur est toujours zéro et quelques, quoi. Ah, mais je l'utilise tous les jours. Sachez, monsieur, que tous les soirs, à la tombée du jour, eh bien, j'allume l'électricité le temps d'allumer mes chandelles. Et je les réteins. Et voyez-vous, parfois, cette nouvelle vie, finalement, parce que l'électricité apporte une nouvelle vie. Eh bien, oh là là, ça chamboule trop de choses. Mais vous rendez compte, si on doit mettre l'électricité partout, ça va me changer dans mes habitudes. Ça va me changer dans mes comportements. Je ne sais plus savoir où. Pour les chandelles, ça me va bien. Bon, restons avec ça et, bon, un petit peu, le temps d'allumer les chandelles. Et parfois, notre vie, par la foi, ça se résume à allumer les chandelles le soir, avant d'éteindre encore le compteur. Est-ce que nous en sommes là? Ou est-ce que nous voulons vraiment pleinement profiter d'une vie par la foi? Oh, c'est pas à moi de dire ce qu'il convient de faire, mais le Seigneur sait exactement quand nos cœurs sont disposés à le suivre par la foi. Alors, regardons le point suivant, le troisième point. Il est écrit « Les pasteurs m'ont été infidèles ». Sans vouloir me défiler. Quand il est question des pasteurs ici, ça ne veut pas forcément dire les rabbins du peuple de Dieu à l'époque ou les pasteurs tels qu'on entend aujourd'hui. Quand il est question souvent des pasteurs dans l'Ancien Testament, il est aussi souvent des chefs du peuple, c'est-à-dire les responsables du peuple. Et chacun d'entre nous avons un lot de responsabilités dans notre vie. Et ici, ce que le Seigneur est en train de dire, bien voilà, les chefs du peuple ont perdu leur témoignage. En l'occurrence, le témoignage de cette communion avec moi. Ils l'ont perdu. Vous savez, comment on perd son témoignage? C'est facile. C'est quand on est plus intéressé par les choses qu'il faut faire que par ce qu'il convient d'être devant la face de Dieu. On a remplacé l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir, faire. Ouais, pas un auxiliaire, mais c'est cela. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 14, il est écrit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, parfois, certains qui parlent de la perte du salut ont utilisé cela pour nous dire, « Mais voilà, attention, si tu ne te sanctifies pas, tu vas perdre ton salut. » Non, c'est pas cela. Ici, c'est cette sanctification pratique et c'est l'idée de connaître le Seigneur dans cette vie aujourd'hui. Et beaucoup de frères, de sœurs me disent, mais ne vivent pas cette vie d'abondance avec Christ, tout simplement, mais parce qu'ils ne recherchent pas cette sanctification avec Christ. Aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur le service pour Dieu, plus que sur la sanctification comme moyen d'obtenir l'assentiment de Dieu, la bénédiction de Dieu sur nos vies. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et le Seigneur dit plutôt, qu'est-ce qu'il faut que tu sois ? Et voilà encore un autre chemin, eh bien, pour abandonner le Seigneur. Nous croyons que la vie chrétienne consiste à servir le Seigneur de toute notre force, d'être le plus efficace, d'être finalement très pragmatique dans son travail. Il faut que ça marche, il faut qu'on réussisse. Et avec toute l'énergie de notre personne, nous essayons d'entreprendre telle ou telle chose, telle technique, telle méthode, telle capacité permettra, eh bien, d'annoncer le message de Dieu. Vous savez, le Seigneur dit dans sa parole, non, il ne le dit pas, excusez-moi, mais je pense à cette citation d'un grand homme de Dieu qui disait « L'œuvre de Dieu, par les moyens de Dieu, donne les fruits de Dieu. » C'est Hudson Taylor, en Chine, qui parlait comme cela. Mais nous, nous avons changé cela et nous disons « L'œuvre de Dieu, par les moyens de l'homme, les citernes, eh bien, ça va donner les œuvres de Dieu. » Mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur, d'ailleurs, n'attend pas d'œuvre, il attend du fruit. C'est comme ça, eh bien, que l'église de Laodicée s'est égarée. Elle a mis l'accent sur le faire plutôt que l'accent sur l'être. Voilà où nous en sommes. Vous savez que le Seigneur dit dans cet passage que cette église-là le rend malade. On n'a pas pensé à ce fait-là. Il est à vomir, le Seigneur. Je vomirai de ma bouche. On a rarement entendu ces paroles, comme cela. Quand on a envie de vomir, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne digère pas. Et ce quelque chose que Dieu ne digère pas, vous savez ce que c'est ? Nos œuvres. Il ne digère pas. Tout ce qui vient de la chair ne peut hériter le royaume de Dieu. Et voilà encore un aspect, eh bien, que nous oublions dans notre vie, c'est que souvent, eh bien, nous voulons croire que par nos capacités, eh bien, Dieu va se glorifier. Non. C'est jamais comme cela que le Seigneur procède. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme de Dieu, Josué, qui s'est écrié « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Oh, c'est des paroles qui ont résonné dans mon cœur. Après ma conversion, je trouvais ça un message formidable. Sanctifiez-vous, purifiez-vous, mettez-vous à part pour le Seigneur. Et puis, voyez ses œuvres. Et qu'est-ce qu'elles étaient ses œuvres juste après ? Les œuvres de Dieu, c'était la victoire de Jéricho, ni plus ni moins. Un coup de trompette, une petite marche, mais une très grande victoire. Et puis, cette sanctification, eh bien, le peuple de Dieu l'a mis à part quelques instants et s'est reposé sur ses capacités. Et il est allé à la bataille d'Aï. Et là, on a vu ce que ça a donné. Une grande défaite. Voilà où nous en sommes dans notre vie quand eh bien, nous nous appuyons eh bien, sur nous-mêmes, sur notre pragmatisme, sur nos capacités. Alors, le Seigneur nous dit comme à Jacob, il était prostré après cette défaite d'Aï. Le Seigneur lui dit, lève-toi, sanctifie le peuple, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Voilà, c'est tout simple. Alors, souvenons-nous d'une chose, c'est que parfois notre service chrétien est un super déguisement pour cacher, eh bien, une absence de vie intérieure, de communion intime avec le Seigneur. Et on se dit, mais pourquoi il n'y a pas de fruits dans notre vie ? Parce que Christ n'est pas là. Parce que nous ne voulons pas nous identifier à lui dans une vie simple de tous les jours où eh bien, nous suivons sa voie. Regardez comme nous parlons entre nous. On dit, est-ce que tu as mis ta vie en règle ? Où est-ce que vous trouvez ça dans la Bible ? Mettre sa vie en règle, c'est devenu mettre sa vie en conformité avec les normes que nous nous sommes parfois fixées. Ma vie est en règle. Je ne fume pas, je ne bois pas. C'est cela. Mais le Seigneur va bien plus loin quand il parle de sanctification. C'est toute la transformation intérieure de notre être. J'ai ma vie en règle, tout va bien. Non, le Seigneur va bien plus loin dans toutes ces choses-là. La sanctification, eh bien, c'est l'appel de Dieu quand il dit « Je suis... » Rends-moi plus saint, Seigneur. Et d'être comme lui. Et maintenant, je conclurai ce point en vous parlant d'un homme qui s'appelait Murray McShane, qui était, je crois. Il a dit ceci: Seigneur, rends-moi aussi saint que tu puisses rendre un. Priez cela devant le Seigneur. Placez ça devant Christ. Et je vous garantis que ça va interpeller votre vie dans des domaines, dans des compartiments de votre existence que jusque-là, eh bien, vous n'aviez pas soupçonné. Et c'est ce qui donnera un témoignage. Cet homme, Paul Murray McShane, quand on le voyait, avant même de parler, on se disait, mais il y a quelque chose chez cet homme-là qu'il n'y a pas chez les autres. Déjà, le message était donné par l'homme. Parce que Dieu parlait par cet homme. Quand il ouvrait la bouche, il y avait quelque chose qui se passait. Qu'a-t-il fait? Il a porté du fruit. Mais il a porté beaucoup de fruits encore, eh bien j'ose le croire, aujourd'hui, tandis que nous parlons de lui. Je finirai sur le dernier point. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Il y a presque une progression dans tout ce que nous avons vu, eh bien ce matin. À cause des alliances contractées par le roi Akab, eh bien, abandonné sans parfois même qu'on s'en rende compte, l'Esprit de Christ pousse à adorer la personne de Jésus-Christ. L'Esprit de l'homme pousse à adorer l'homme. Et le christianisme moderne, dont on entend beaucoup aujourd'hui, c'est un christianisme qui est complètement centré sur l'esprit humain et qui veut glorifier tout simplement l'homme. Dans les Écritures, et je finirai un peu par ces exemples bibliques, on trouve deux témoignages de personnes qui sont allées à Jérusalem pour adorer. Il est question d'un eunuque qui revenait de Jérusalem, où il était allé adorer, et il s'en rentrait chez lui. Et vous savez quoi? Il méditait sur Christ. On sait que c'est un véritable adorateur, parce qu'il pense à Christ. Il pensait même précisément à Ésaïe 53. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel Christ. C'est Christ crucifié. C'est Christ humilié. C'est l'agneau de Dieu qui sera seul célébré bien dans le ciel. Il pensait à lui, l'homme de douleur. Les Juifs aussi montent à Jérusalem pour adorer. Et ils adorent qui? Pourquoi ne tombent-ils pas sur la personne de Christ? Parce qu'ils cherchent un Dieu à leur ressemblance, tout simplement. Dans les Écritures, on trouve encore un autre exemple, c'est dans l'évangile de Jean. Il est question dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, de ce passage merveilleux et parfois même un peu énigmatique. Chapitre 12, verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dire avec instance, « Nous voudrions voir Jésus. » Voilà de vrais adorateurs. Certains d'entre eux, parce qu'ils étaient de vrais adorateurs, n'avaient qu'une seule pensée, « Voir Jésus-Christ. » Et tous les adorateurs ne veulent pas adorer Christ. Beaucoup de Grecs montaient aussi, des prosélytes, venaient pour adorer Dieu. Beaucoup de Juifs, pendant les fêtes, venaient pour adorer Dieu. Et aujourd'hui, on parle d'adorer Dieu. Il est roi, il est le grand, il est puissant, il est merveilleux, il est bon, il est adorable, il est... Oh, je t'aime, je t'aime. Que je t'aime, et que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, et que je t'aime, que je t'aime. Oui, c'est Johnny qui adore son Dieu. Et on en est là aujourd'hui. C'est l'homme qui adore l'homme. Les Juifs étaient aussi des adorateurs, mais ils ne sont pas tombés avec leurs adorations sur la personne de Christ, parce qu'ils étaient animés de leur propre esprit. Or, la réponse du Seigneur est merveilleuse. Tout au moins, elle est compliquée. Je n'ai pas tout dit, je ne vous dirai pas tout, mais parce que je n'ai pas tout compris non plus. Mais voilà, voilà des hommes qui veulent voir Jésus et Philippe, il ne sait pas quoi faire. Il en parle à André, ils sont toujours ensemble. Finalement, ils vont voir Jésus. Il y en a qui veulent te voir, mais ce sont des Grecs. Bon, moi, la réponse, je dis, qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Je pensais que le Seigneur allait dire, bon, ben, allons-y. Levons-nous, ou alors, je n'ai pas le temps, tout à l'heure, plus tard. Mais voyez-vous, sa réponse, c'est de dire, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un meurt, quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Dans ces paroles, eh bien, la réponse que le Seigneur eh bien, nous donne ici pourrait être paraphrasée ainsi. Ils veulent me voir. Eh bien, vous savez comment ils me verront ? Ils me verront crucifié. Ou ils ne me verront pas. Ils veulent me voir. Et ils me verront crucifié au travers de vos vies crucifiées, où ils ne me verront pas. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Regardez à quel point il associe eh bien, ses disciples dans cette réponse. Ils veulent voir Jésus. Ils le verront au travers de vos vies qui n'ont pas abandonné ma personne, où ils ne le verront pas. Voilà ce que le Seigneur eh bien, nous montre un petit peu dans ses paroles. Oui, nous adorons Dieu. Quand on parle d'adorer aujourd'hui, on parle de ressentir. Quand Dieu parle d'adorer, il parle de s'offrir. S'offrir totalement, s'offrir sans résistance, s'offrir tout simplement comme si on s'immolait pour le Seigneur. Je n'ai plus de droit sur ma vie, je te la donne, elle est à toi. Du commencement à la fin. Seigneur, fais tout ce que tu veux faire avec ma vie, peu importe ce qu'il arrivera. Dernièrement, j'ai lu le témoignage d'un jeune couple missionnaire qui m'a beaucoup touché. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent ce jeune couple qui n'a pas vécu ces dernières années. Ils s'appellent John et Betty Stamm, qui sont morts en Chine, à 26, 27 ans, après quelques mois de mariage et une petite fille qui avait 3 mois. Et ce qui est très touchant dans leur vie, c'est pas tant leur sacrifice à mort, je dirais, mais c'est leur vie en sacrifice vivant. Parce que bon, il y a quelque chose de très glorieux. Pierre aussi était prêt à mourir, mais pas prêt à s'offrir. Et ce jeune couple, il s'est offert, chacun de son côté. Ils sont même partis séparément en Chine. C'est très touchant parce que l'un n'était pas sûr que c'était la volonté de Dieu. Il était prêt à renoncer à cette jeune femme qu'il aimait. Il n'osait pas la demander en mariage parce qu'il ne voulait pas l'empêcher, elle, de faire la volonté de Dieu. Et puis elle est partie et le Seigneur l'a convaincue à sa manière. Et puis ils sont arrivés sur le champ missionnaire et ils se sont retrouvés un instant, le temps de se fiancer et de se séparer parce que leur mission les conduisait dans 2 endroits différents. Et finalement, ils se sont retrouvés. Qu'un an après, sans email, sans beaucoup de photos et tout ce qu'on fait, quoi. Mais ce désir constant, qui est bouleversant, c'est de voir de mettre Christ en tout point, à la première place. Et cette jeune femme, Betty, elle écrivait notamment des poèmes. Et j'aimerais vous lire ce poème. Il s'intitule « Peur de quoi ?» Et vous verrez à quel point dans ces lignes, c'est toute la destinée d'un chrétien qui s'est vraiment offert à Jésus-Christ. Peur de quoi ? De sentir mon âme libérée ? De posséder la paix d'éternelle durée ? L'ineffable repos promis dans l'au-delà ? Peur de cela ? Peur de quoi ? De te voir au Sauveur face à face ? de voir s'illuminer les rayons de ta grâce. La plaie ouverte d'où pour moi ton sang coula. Peur de cela? Peur de quoi? De subir un coup mortel, peut-être. D'avoir le cœur percé, comme le fut, bon maître, ton cœur, au jour sinistre où le ciel se voila. Peur de cela? Peur de quoi? Que mon sang arrose un sol fertile? Que par ma mort, ainsi plus que ma vie utile, transforme en cœur de chair les pierres que voilà? Peur de cela? Avons-nous peur de cela? Avons-nous peur de nous offrir à Christ, de renoncer à notre vie, de reprendre ce chemin de la croix que parfois nous avons oublié, et en ayant oublié, nous avons simplement eu ces citernes crevassées, c'est-à-dire cette joie éphémère qui disparaît peu à peu, et les problèmes qui viennent avec cet éloignement de Christ, cette joie qui s'étiole. Peur de cela? Peur de s'offrir? Peur de croire que Dieu te soutiendra, que Dieu te gardera, que Dieu se glorifiera au travers de toi? Peur de cela? Peur de quoi? Peur d'aimer Dieu plus que ton péché? Peur de cela? Peur de quoi? Que d'avoir simplement comme bannière, comme pensée que Jésus-Christ crucifié? Peur de cela? Voilà ce que peut vouloir dire pour nous abandonner Jésus-Christ. Tout simplement quand les choses de ce monde ont pris une telle valeur qu'on a peur de perdre cela pour Jésus-Christ qui s'est donné pour moi. Amen.